Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel avec vous pour la prochaine heure. Et cette semaine, on parle de concepts qui se tiennent la main, je dirais. On parle d'empathie, de compassion et de sensibilité. Et d'entrée de jeu, on va parler définition parce que ça peut être difficile à séparer ces concepts-là tellement ils se chevauchent. Et pour ça, j'ai fait appel à mon bon ami M. Larousse qui nous démêle un petit peu par rapport au concept. Et si on parle d'empathie, on parle de notre capacité, notre faculté intuitive à se mettre à la place de l'autre, hein, à capter, percevoir ce que quelqu'un d'autre que nous ressent. Quand on parle de compassion, toujours selon M. Larousse, bien sûr, on parle d'un sentiment de pitié qui nous rend sensibles au malheur d'autrui ou encore un sentiment qui porte à plaindre quelqu'un d'autre et partager ses souffrances. Et là, les mots « pitié » et « plaindre » qui nous sont proposés par M. Larousse m'ont fait vraiment hérisser le poil sur les bras parce que mon âme rebelle est prête à obstiner M. Larousse. Il va jusque-là. Moi, je me dis que dans la vie, il y a des règles pour qu'elles soient changées. Il y a des mots pour qu'on puisse les redéfinir. Et je vais le faire immédiatement avec la compassion. Pour moi, la compassion, ça réveille plutôt les notions de compréhension, de tendresse, hein? Comprendre avec bienveillance et tendresse la situation de quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est vraiment juste, c'est personnel. On va voir si ça fait du sens au cours de l'émission, quand même. Mais n'en demeure pas moins que le fait de pouvoir percevoir ce que l'autre ressent, le fait de ressentir à notre tour de la compassion pour le vécu de quelqu'un d'autre, ça prend de la sensibilité. C'est pour ça que ces concepts-là se tiennent la main. Mais est-ce qu'il y a des revers de médaille de ces qualités-là qu'on possède et qui sont extrêmement belles et qui sont nécessaires dans la vie? C'est quoi la différence entre empathie et sympathie? Est-ce qu'il y en a une? Et nécessairement, la sensibilité, on sait qu'on peut manquer de sensibilité, mais est-ce que ça existe un trop plein de sensibilité? Est-ce qu'on peut réellement être trop sensible? Finalement, c'est quoi les limites saines de ces qualités-là? On en parle aujourd'hui avec notre invitée, la comédienne, auteure, conférencière et clown thérapeutique, Michèle Sirois. Bienvenue à Emmanuel, avec un M et deux L.
Encore une nuit blanche, passée sur les planches, à tenter la romance au bal des mal-aimés. J'ai vu la solitude danser avec un vieux rêve oublié, et puis sous le coup de minuit, ensemble ils sont partis. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Les yeux du cœur.
Ils sont partis, la fête a continué. J'ai vu le soleil briller au fond des cœurs blessés. Il y a de l'espoir caché dans les yeux des mal-aimés. J'ai vu le soleil briller et j'ai laissé mon cœur parler.
Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Les yeux du cœur. Thank you.
sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur, les yeux du cœur. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur, les yeux du cœur.
Ah, les yeux du cœur. C'est un peu... Non, mais c'était tellement thématique, je pouvais pas passer à côté. Les yeux du cœur, c'est un peu ce que nous propose, en fait, l'empathie, la compassion, puis la sensibilité quand on l'a à l'intérieur de soi. Et être empathique, avoir de la compassion, être sensible, c'est aussi simple que poser la question à quelqu'un « comment ça va? » et être intéressé et sensible sincèrement à sa réponse. Donc, on se comprend que c'est comme la base de l'intérêt qu'on porte à l'autre. Et un des comportements qui est clairement relié à l'empathie, à la compassion, à la sensibilité, c'est la possibilité d'aider l'autre. Tu sais, je vois pas vraiment comment on peut être porté à vouloir aider quelqu'un naturellement sans démontrer un minimum de ces trois qualités-là. Mais on sait que des fois, on fait les choses pour des raisons un peu moins cute que ça en a l'air. Tu sais, c'est possible d'aider pour avoir un gain secondaire, comme avoir de l'aide en retour ou prouver aux autres qu'on est une bonne personne puis avoir de la reconnaissance. Mais la vraie aide, là, celle qu'on porte naturellement sans arrière-pensée, sans attente, ça vient nécessairement d'une capacité à être à la fois sensible, empathique et faire preuve de compassion. L'aide, c'est un des comportements altruistes dont on peut faire preuve. Et l'altruisme, ça serait comme l'empathie, la compassion et la sensibilité en action. Mais l'altruisme, c'est comme tout un autre tome. Je pourrais en parler tout seul pendant une heure, ce que je ferai peut-être éventuellement. Et c'est important de parler d'empathie, de compassion et de sensibilité parce que ce sont des... Pour moi, définitivement, c'est des qualités qui sont essentielles pour un monde meilleur, mais aussi parce que certaines personnes en font preuve de beaucoup. C'est quelque chose qu'ils ont en grande quantité dans leur sac de vie personnelle et des fois, ça peut mener à des conséquences négatives pour la personne qui en fait preuve. Donc, pour que l'empathie, la compassion et la sensibilité servent bien, hein, qu'ils soient de bons serviteurs et non de bons maîtres, ça mérite d'être clarifié et bien utilisé. À commencer par différencier l'empathie de la sympathie. L'empathie, ce n'est pas de la sympathie. Quand on est empathique, on est capable de se mettre à la place de l'autre. La sympathie, c'est pas d'être capable de se mettre à la place de l'autre, c'est de vivre l'expérience de l'autre littéralement. Il n'y a plus de distance entre la compréhension et l'expérience du vécu de l'autre. Et là, ce qui était supposé être de l'empathie perd clairement de son utilité puis de ses bienfaits. Pensez à la fameuse grossesse sympathique. On a tous déjà entendu parler de ça et sincèrement, c'est un exemple en or, je ne peux pas aller plus clair que ça. Quand l'homme vit une grossesse sympathique avec sa femme, sa conjointe qui est enceinte, on voit une prise de poids, de l'insomnie, de l'anxiété, des sautes d'humeur. Et il peut même vivre des nausées. Donc, il grossit en même temps qu'elle, il est à fleur de peau, il vit littéralement tous les symptômes de la grossesse avec sa conjointe. Donc, quand on y pense, et pour la maman et pour le papa, est-ce qu'on est mieux accompagné et est-ce qu'on accompagne mieux quand on vit une grossesse en sympathie ou quand on est empathique à notre conjoint? Tu sais, je veux dire, ça peut pas être plus clair que ça. Ceux qui vont me dire, non, moi, je pense que c'est très, très, très bien de devenir indisposé dans notre humeur, d'avoir des nausées et de, tu sais, je veux dire, il y a comme une limite qui est franchie. Et c'est ça, la sympathie. Et dans cet exemple-là, c'est très comportemental et c'est très clair, mais ça s'applique à toutes les fois où on dépasse la limite de l'empathie et où on s'immerge dans le vécu de l'autre. Comment on peut offrir notre aide, notre écoute, notre présence si on coule avec l'autre? Pensons-y. Ah, la compassion. Et j'ai parlé d'une définition du Larousse de la compassion il y a quelques minutes et ce que ça impliquerait d'avoir pitié, de plaindre quelqu'un pour sa souffrance, ça juste fonctionne pas dans mon cerveau et j'étais tellement pas d'accord en lisant que je me suis dit que j'allais aller voir les mots qui étaient proposés comme étant des antonymes, des contraires de la compassion. Je me suis dit que ça allait me répondre ou que ça allait nourrir ma réflexion. Et aussi, je me suis dit que ça allait peut-être m'aider à comprendre si ma bienveillance, la tendresse que je voyais dans ce mot-là pouvait être à propos. Et quand on parle du contraire de la compassion, on parle de cruauté, de dureté et d'insensibilité. Et moi, je vois nulle part les notions de pitié, de plainte, mais dans la cruauté, dans la dureté, je vois l'opposé de la tendresse. Dans l'insensibilité, j'y vois une personne qui est juste pas impliqué, qui n'est pas touché par la réalité des autres, sans qu'il y ait nécessairement une souffrance non plus. Donc, la compassion, ce n'est pas de la pitié. Je répète, la compassion, ce n'est pas de la pitié. Parce que, croyez-moi, là, j'encouragerais pas un monde rempli de compassion si c'était pour que le monde prenne en pitié, plaigne tout le monde dans leur tourmente. Seigneur, non, ça serait vraiment pas un but idéal de vie. Là. Je vois pas du tout ce qu'on s'en irait avec ça. Donc, le point, c'est que faire preuve de compassion, c'est magnifique. Ça implique une bienveillance, une compréhension et le fait d'être touché, de réagir avec sensibilité au vécu de quelqu'un d'autre. Pour moi, la pitié, ça dépasse la limite saine de la compassion. J'ai déjà lu que de prendre quelqu'un en pitié, c'est le diminuer à son plus faible potentiel. Et c'est vrai. C'est regarder quelqu'un et de regarder en lui tout ce qui est triste et négatif, t'sais, c'est comme de regarder à quel point sa situation est désolante. Hey, merci! C'est aidant. Ça m'uplift, comment on dit ça en français? Ça m'élève. Chaque fois que quelqu'un me croise dans l'épicerie, je pensais à ça. On sait que je suis en fauteuil roulant. Et quand on me demande qu'est-ce qui m'est arrivé parce que je suis jeune, tout ça, et je leur dis que je suis née avec un cancer à la moelle épinière, il y a certaines personnes qui me répondent « Oh mon Dieu, pauvre toi, c'est pas drôle, puis t'es tellement jeune. Moi, j'ai de la peine pour toi. » Moi, je vous le garantis que nos réalités là, se touchent pas. Là. On se rejoint pas. On partage pas du tout la même. C'est bon, la compassion, et c'est facile d'avoir de la compassion justement pour quelqu'un qui est dans une situation difficile apparente, comme une personne en fauteuil roulant, un chien qui se fait maltraiter. Tu sais, dans la vulnérabilité, c'est facile d'avoir de la compassion. Mais d'avoir de la compassion pour des comportements qu'on cautionne moins ou pas du tout, hein, avoir de la compassion pour les insensibles, les cruels de ce monde, justement, là. Est-ce qu'on est capable d'avoir de la compassion pour ce qu'on voit moins en eux, hein, mais que c'est là quand même, je veux dire, il y a de la souffrance chez ces personnes-là. Mais je vous dirais que là, c'est un petit peu plus difficile d'aller piger dans notre sac à compassion. Qu'est-ce que vous en pensez? Et comme je l'ai répété, avoir de l'empathie, de la compassion, ça prend de la sensibilité. Mais il y a plusieurs personnes qui me disent qu'ils sont trop sensibles. Ils voient littéralement leur sensibilité comme un handicap. Et je me considère moi-même comme un hypersensible. J'ai toujours dit que j'étais une éponge. Moi, j'absorbe tout ce qui se trouve autour de moi. Il n'y a pas de limite. Je le dis souvent, on vit dans un monde d'énergie. Donc, ce qu'on peut absorber, c'est comme infini. T'sais, combien de fois vous êtes arrivé dans une pièce que quelqu'un était en colère, puis là, vous avez commencé à taper du pied, puis vous avez comme absorbé cette colère-là. Vous le faites inconsciemment ou pas, là, sincèrement. Il y a des gens, vous êtes vraiment bien dans votre trafic avec votre musique, mais là, tout le monde pogne les nerfs alentour, puis soudainement, vous avez comme une colère qui ne vous appartient pas. C'est étrange, hein? Ben, c'est ça. Pour moi, je ne le vois pas comme un handicap. Je trouve que c'est le plus beau cadeau au monde. Moi, je le salue, ça. Parce que oui, ça fait qu'on capte le stress des gens, qu'on est blessé plus profondément probablement que beaucoup de gens quand on l'est. Mais ça veut aussi dire qu'on ressent la peine des gens sans qu'ils aient à nous le dire. Qu'on offre une présence, une écoute et une aide, un endroit sécuritaire sans que les gens aient à placer un mot. Et ça, c'est quelque chose qui est rare et précieux dans la vie. Vous pouvez aider les gens qui ne sont pas capables de demander de l'aide. Comprenez-vous à quel point c'est merveilleux? Pensez-y.
D'être sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sensible, je sais, moi aussi ça veut me tuer. D'être sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. Tu t'angoisses, tu paniques, t'es en crise quand tu te prends en plein cœur. Sans pouvoir l'exprimer tout de suite, c'est trop fort, ça ferait peur. Solitaire dans ton monde, tu chantes aux étoiles et câlines la terre. Tu sens notre mère qui gronde, à bout de force mais ne peut plus se taire. Tu sens la souffrance comme une bombe, le tic-tac en sourdine. Les puissants qui nous mènent à la tombe et se moquent de notre sort en prime. J'aimerais te dire que ce monde des villes finira par se réveiller, mais j'ai bien peur que ça ne tienne qu'à un fil. Mais rassure-toi, toi tu seras sauvé. Ton sensible c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible je sais, moi aussi ça va me tuer. T'es trop sensible c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer. Avec ta petite gueule d'ange, tu nous fais voir des masques colorés. Tous ces gens qui te croient innocents, mais toi tu voyages dans l'obscurité. Avec ta petite gueule d'ange, tu laisses croire et ne semble qu'indiquer que dans ta tête y'a que des fleurs, des sourires, des papillons et du chevalier. Je ressens ta souffrance, je la vois, je l'écoute. Être enragé, déçu, c'est normal, mais ce n'est pas la seule route. C'est à toi d'exprimer ta beauté, d'éclairer de tes yeux. Si autour de toi rien ne brille, à toi d'être fort et d'y croire pour eux. Dans ce monde qui fourmille de fantômes, on t'en fera des croche-pieds. Cherche en toi cette lumière au cœur d'ange humain et bien plus beau de ce qui n'y paraît. Ne laisse pas l'ignorance te duper, ne crois pas à leurs mensonges. Ils te donnent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont, existe en toi bien plus que ce qu'on t'a inculqué. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. C'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer.
Elle est diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Québec. Elle est infirmière en Suisse, puis à Québec. Elle est comédienne au théâtre, à la télévision, au cinéma, animatrice d'air libre sur les ondes de Ma TV, auteure, conférencière et clown thérapeutique pour la Fondation Dr Clown. Elle est venue nous parler d'empathie, de compassion et de sensibilité. Et c'est assez facile de comprendre pourquoi. Michèle Sirois, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Ça va bien?
Ben oui, on va parler d'un beau sujet, la bienveillance, la compassion, j'aime ça.
Ben effectivement, puis on a eu la chance de se rencontrer il y a quelques semaines et quand j'ai pensé à ce thème-là, j'ai dit, il faut que Michèle vienne nous en parler parce que
tu as cette façon, tu as une énergie exceptionnelle et tu respires la compassion, l'empathie, la bienveillance et la sensibilité. Alors, je me suis dit, c'est merveilleux.
Hey, arrête, les gens vont penser que j'ai un auréole alentour de la tête.
Ben, peut-être. Tout n'est pas visible dans la vie, sache-le. Écoute, tu as toujours voulu prendre soin quand même. Je veux dire, il faut nécessairement être empathique là, pour être capable de prendre soin des gens en tant qu'infirmière et après d'être clown thérapeutique. Est-ce que tu te considères comme une empath? On a souvent entendu parler de ce terme-là, être une empathique. Est-ce que tu te considères comme une empath, comme une hypersensibilité?
En fait, moi, je réfléchis pas beaucoup à ça. Mm-hmm. C'est comme si moi, je suis comme ça. Je vois bien que c'est pas tout le monde qui a les mêmes intentions, les mêmes valeurs, les mêmes désirs. Alors, c'est comme... Moi, je me suis toujours connue comme ça. J'étais petite, puis il y a une histoire que ma mère aimait souvent me raconter. À Noël, j'avais peut-être 3-4 ans, puis on écoutait des dessins animés en famille. Et puis, c'était l'histoire du petit bébé canard qui avait perdu sa maman canard. Puis, à la fin du film, ben le petit bébé canard, naturellement, retrouvait sa maman. Sauf que moi, j'avais commencé à pleurer au moment où le bébé canard avait perdu sa mère. Puis, ça a l'air que j'ai pleuré jusqu'à minuit le soir. Ma mère m'avait dit, écoute, on est devenu inquiet. On avait beau te répéter que le bébé canard avait retrouvé ta maison, t'étais intarissable. Alors, j'ai l'impression que je suis née comme ça. Alors, c'est comme une sympathie, la capacité de dire l'autre, il sent ça, puis moi, ça me touche. Alors, je pense que je suis venue au monde comme ça, parce que je regarde ma sœur, on a 20 mois de différence. On a les mêmes parents, on a été dans les mêmes écoles, le même environnement. Ma sœur est une femme d'affaires, c'est une femme sensible, qui aime l'art, la lecture et tout, qui va être touchée devant une belle pièce de théâtre, un beau film. Mais elle a fait de sa vie une femme dans le marketing, puis bon, à goal, puis elle travaille fort. Alors, on est vraiment très, très différentes. Fait que moi, je pense qu'on vient au monde avec une structure d'âme ou même une structure du cerveau, parce que de plus en plus, les chercheurs sont en train de dire que l'empathie, ça se situe dans le cerveau d'abord. Alors, je pense que je suis née comme ça.
Mais justement, parce que là, tu me nommes l'histoire du petit canard et je me reconnais énormément dans cette réaction moi-même. Mais justement, on parle de sensibilité. Est-ce que tu te considères hypersensible? Mais également, est-ce que tu crois que ça existe être hypersensible ou trop sensible?
Bien, je pense que quand on dit que quelqu'un est trop sensible, c'est parce qu'il se laisse emporter, envahir par ses émotions, puis ça nuit à son bien-être. Je pense que c'est pour ça qu'on va dire « Ah, ben t'es trop sensible parce que tu te fais de la peine avec ça ». Je pense que quand on est habité par une sensibilité, il faut justement être capable de se donner des outils et puis de trouver des façons de vivre avec cette sensibilité-là puis de ne pas perdre le bien-être puis la joie qu'on peut avoir parce que tout est matière à avoir de la peine. Moi, des fois, je lunche, puis je suis là que je vagabonde sur Facebook, puis tout d'un coup, je vois une photo d'un enfant qui est en train de mourir en Afrique parce qu'il n'a pas assez mangé. Hey, là, il faut quand même que je continue mon sandwich si je veux continuer ma journée. Alors, mais tu sais, je suis obligée de prendre un moment de pause, un moment de réflexion, un moment de prière, là, sans mettre une notion de religion, mais d'essayer d'envoyer un peu d'amour puis de dire que ce serait bien que la Terre soit un petit peu plus équilibrée. Donc, je pense que quand quelqu'un est très sensible, moi, je pense qu'une bonne thérapie peut aider à être bien entouré, à être aimé et surtout s'accorder du temps à soi. Parce que souvent, je regarde les infirmières, les médecins, les enseignants, les clowns thérapeutiques, parce que bon, je fais ce métier-là aussi. Il faut être capable, si on veut être capable de continuer à être touché, de prendre soin de soi aussi. Parce que si on ne prend pas soin de nous, on va donner plus d'énergie qu'on va recevoir, puis à un moment donné, on va être obligé de couper, puis c'est là qu'on va parler de blessure de compassion.
Mais effectivement, et j'avais une question par rapport à ça justement, est-ce que tu es capable de compassion envers toi-même?
Je l'ai appris, vraiment. Ah. C'est vrai que c'était pas inné. J'avais une tendance à être très sévère, mais ça, c'est ma personnalité, très sévère envers moi-même. La barre haute, la première de classe. Si c'est pas parfait, c'est nul. Le 87%, ça n'existe pas. Même le 72%, ça n'existe pas.
Je pense qu'il y a des gens qui peuvent se reconnaître à la maison. Moi, je me reconnais en tout cas.
Oui. Alors, c'est très nuisible, justement, pour le bien-être. Alors, il faut être capable. Alors, j'ai appris. Moi, je ne suis pas gênée de le dire. J'ai fait longtemps de la thérapie, mm-hmm. justement, pour apprendre à me dire c'est très, très, très beau, même si c'est pas 100%. Ça va très, très bien. Mm-hmm. Puis, d'ailleurs, on l'a découvert, les gens qui ont de la bienveillance à leur propre égard, qui ont de la compassion. Je ne sais pas si je t'en avais parlé la dernière fois qu'on s'est vus, mais c'est des études qui viennent de sortir, une de Californie et l'autre de la côte est américaine. Et on s'est rendu compte que les gens qui avaient de la compassion à leur égard étaient capables de mieux rebondir suite à un échec. Ils étaient capables de trouver des solutions plus que ceux qui se tapaient sur la tête et disaient « Ah, comment ça que j'ai pas réussi ça? » Et en plus, les gens qui ont de la bienveillance, de la compassion à leur égard vont vieillir plus en santé. Ils vont avoir tendance à prendre aussi soin de leur santé physique. Ils vont faire des beaux vieux en santé.
Est-ce que tu penses qu'il y a une limite saine à la compassion? Est-ce que tu crois qu'il y a un côté... Tout a deux côtés de médaille dans la vie, dans le monde de polarité dans lequel on vit actuellement. Est-ce que tu crois qu'il y a une compassion qui peut être malsaine?
Ben, moi, je pense qu'elle devient malsaine quand la personne a de la compassion et puis qu'elle devient burn-out de ça. Là, c'est plus sain. On dit charité bien ordonnée commence par soi-même. On le dit, hein, dans l'avion, ils disent, si les masques tombent, les mamans, commencez par mettre votre masque, puis après ça, mettez le masque à vos enfants. On le répète beaucoup pour les proches aidants, les gens qui s'occupent de grands malades à la maison, on leur dit, prenez soin de vous, parce que si votre santé physique flanche, vous ne pourrez plus aider votre personne qui est malade. Alors, je pense que la compassion, il faut vraiment garder un équilibre entre sa santé pour pouvoir continuer à être touché et aider les autres.
Est-ce que la pitié serait... une compassion, une empathie bien utilisée pour toi?
C'est pas la pitié. Hein. La pitié, c'est comme... Je vois ça quelque chose de passif dans la pitié. Mm. « Oh mon Dieu, il fait donc pitié. Oh, c'est donc triste. Oh, pauvre lui. » Tandis que l'empathie, la compassion, te donne envie d'agir. Tu dis « Moi, je suis touchée par ça, puis voici qu'est-ce que j'ai envie de faire.
Mm-hmm. »
Je trouve que c'est plus positif que la pitié. La pitié, ça, c'est juste plate.
Ben, en fait, tu l'as nommé, puis c'est vraiment, vraiment passif. Et... est-ce que tu vois une différence entre l'empathie et la sympathie, selon toi?
Bien, je sais qu'il y a des définitions où on dit beaucoup. Hein? Alors, la sympathie, je pense que c'est qu'on va reconnaître que l'autre est triste parce qu'il a perdu quelque chose, par exemple. Tandis que l'empathie, c'est vraiment d'être capable de se mettre à la place de l'autre.
Mm-hmm.
Et dire, moi, cette émotion-là, elle me rappelle quelque chose. Je sais comment l'autre se sent et j'ai envie de l'aider.
Mm-hmm. On continue de parler de sensibilité, de compassion et d'empathie avec toi dans quelques instants. Vous écoutez toujours Emmanuel avec un M et deux L sur le canal M et on parle toujours de compassion, d'empathie et de sensibilité avec Michel Sirois dans quelques instants. Donc, on parlait de sensibilité, de compassion et d'empathie. On voit qu'il y a un côté qui peut être plus difficile. Et je trouve que tu l'as très bien dit. On dépasse peut-être les limites quand on finit par se faire mal à soi-même en essayant de se mettre à la place de l'autre, en démontrant de la sensibilité. Tu as quand même écrit des livres, fait des conférences sur les sujets qui te touchent, entre autres ton travail de clown thérapeutique. sensibiliser les gens, donc réveiller ces qualités-là chez les autres, c'est important pour toi. Donc, est-ce que c'est des qualités qui sont importantes à posséder à ce moment-là?
Bien, c'est sûr que, par exemple, si la conférence que je donne sur, ça s'appelle « De drôles d'outils à prendre au sérieux », c'est une conférence qui, à travers des histoires de clowns que j'ai vécues, j'explique qu'est-ce que les clowns ont fait pour que ça devienne une réussite, rentrer dans une chambre d'une enfant qui est en fin de vie, puis en ressortir 10 minutes plus tard, puis la famille est en train de faire le party. Donc, j'ai essayé de comprendre. Puis naturellement, une chose qui ressort beaucoup, un des outils, c'est bien sûr la bienveillance, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est d'être capable de sentir qu'est-ce qui se passe et de le mettre au service de l'autre parce que c'est ça mon métier. Alors, c'est sûr que moi, c'est des valeurs pour moi, mais ce que je me rends compte, c'est quand on est capable d'appliquer ces valeurs-là envers les autres, on va être capable un petit peu plus de se les donner aussi à soi. Puis je pense qu'à quelque part, si je fais tout ça, c'est pour prendre soin de moi, c'est pour me rappeler d'être bonne envers moi-même, d'être tolérante, de m'aimer, comme je disais tantôt, même si c'est pas parfait, de me réchauffer le cœur, de sentir qu'on est tous dans la même gamique en même temps. Alors, c'est vraiment, je pense que si je fais tout ça, c'est d'abord pour moi, c'est pour me rappeler tout ça aussi.
OK, donc tu fais un peu... Dans le fond, tu transmets aux autres ce que tu veux apprendre toi-même.
Bien, en fait, c'est ça. Je pense que on dit toujours que les meilleurs professeurs, quand ils enseignent, ils vont enseigner très bien quelque chose qui est important pour eux. On va le voir. Même moi, je vois quand j'anime, puis je reçois un invité, puis ça m'allume de l'invité. Je vais être prête, je vais être allumée, je vais poser les bonnes questions, ça va faire une bonne entrevue. Quelqu'un qui arrive avec un sujet qui me touche moins, bien, je vais me préparer autant, mais je le sens dans mon plaisir où je vais être un petit peu moins... comme allumé. Alors oui, je pense que souvent, on va écrire des livres, on va faire un métier, on va donner des conférences, on va chanter des chansons parce que ces sujets-là sont importants pour nous.
Je veux parler de ta sensibilité parce que ce qui est intéressant dans ton cas, c'est que tu as un métier qui, on parle d'une aidante, tant en termes de clown que thérapeutique qu'en termes d'infirmière, mais tu es aussi comédienne et les deux prennent une forme de sensibilité. Il faut être extrêmement sensible, il faut aller toucher sa sensibilité pour incarner un rôle, mais aussi il faut être sensible à autrui pour prendre soin des autres. Comment ces deux... Est-ce que tu vas puiser à la même place ou est-ce que c'est des sensibilités différentes?
Hey, c'est une bonne question. Je pense que c'est sûrement à la même place. C'est dans mon puits personnel, je dirais. Ce qui est bien quand j'étais en clown thérapeutique, c'est qu'il n'y a pas de filtre. Hein? C'est mes émotions à moi. Quand on travaille en clown, on exagère les émotions pour qu'elles deviennent clownesques. Mais c'est toujours des émotions qui sont basées sur la vérité. Je rentre dans une chambre. Qu'est-ce que ça me fait de rentrer dans cette chambre-là? Qu'est-ce que cet enfant-là ou ce parent-là m'envoie? Je me connecte sur qu'est-ce que ça me fait et là, je vais grossir. Ah, je suis joyeuse. Ah, je suis inquiète de me faire mettre à la porte. Ah, je trouve la chambre tellement jolie que je suis toute excitée. Alors ça, c'est facile parce que c'est mes émotions à moi. Quand on travaille un personnage, il faut rentrer dans le cognitif, hein, dans la compréhension du personnage. Pourquoi l'auteur, il fait dire telle affaire? Pourquoi c'est ce move-là qu'il va prendre dans cette scène-là? Donc là, il y a un travail, il y a une couche de plus de difficulté, je dirais, de comprendre ton personnage, puis après ça, bien, de le nourrir avec ton expérience, ta sensibilité d'acteur. Alors, c'est différent, le travail est différent. Je dirais que j'ai plus de facilité à faire clown que comédienne des fois. Oui, parce que clown, c'est moi. C'est Docteur Petitpas, c'est moi exagéré. Tu sais.
Donc, oui, puis tu parles de cognitif, donc peut-être, est-ce que tu penses que tu as plus accès facilement à ton cœur ou à ta tête?
Mais longtemps, ça a été ma tête. Comme je te dis, j'ai fait bien de la thérapie pour toucher mon cœur.
Pour descendre un peu.
Mais
ça.
Un bon acteur va être bon quand il va aller outre le cognitif, justement, quand il va avoir décortiqué le texte, puis compris, puis qu'après ça, il va investir de toutes ses émotions. C'est là que le rôle, le personnage va devenir intéressant quand on se dévisse la tête puis qu'on le remplit de notre émotion.
Qu'est-ce qui te touche le plus dans la vie? À quoi es-tu le plus sensible?
Je dirais que ce qui me dérange le plus dans la vie, c'est l'injustice. Et ce qui me touche le plus, c'est le prendre soin, c'est la bienveillance. Je trouve que notre société, on manque de bienveillance tellement. Je me dis que ça devrait être aussi important que le pouvoir puis l'argent. Et je te dirais que c'est ça. Tu sais, des fois, je conduis puis je suis un peu pressée parce que je m'en vais à l'hôpital puis il n'y a pas de stationnement puis il y a bien du monde puis les écoles puis les autobus scolaires. Puis à un moment donné, je vois quelqu'un qui force, tu sais, comme pour rentrer puis je m'arrête puis je lui fais signe élégamment. « Passez, monsieur. » Et que là, la personne m'envoie la main et me dit merci. Je me dis, bon, je vais être 3 secondes plus tard, mais regarde comment est-ce que je me sens bien juste d'avoir fait ce geste-là, puis que la personne, dans son rush du matin, s'est fait laisser passer pour pouvoir continuer sa route. Ça me touche. Puis je trouve qu'on en manque un peu. Un sourire, juste sourire à quelqu'un dans l'ascenseur, être un peu plus patient entre nous, ça me semble que ça manque un petit peu.
Puis comment tu fais pour garder ton équilibre? Puis je pense aux gens ici qui se sentent hypersensibles, qui sont très, très empathiques et compatissants. Tu as parlé de la limite où quand on se fait mal à soi-même, ça devient un petit peu le côté malsain de ces magnifiques qualités-là.
Oui.
Comment tu trouves ton équilibre là-dedans et comment tu fais pour t'arrêter quand tu sens que tu dépasses ces limites-là?
Oui. Comment je fais pour sentir quand j'ai dépassé? Puis ça, c'était écrit, là, les recherches, puis les grands savants vont le dire. Là, il y avait ça, la blessure de compassion. C'est quand on devient un peu froid. Quand tout à coup, la difficulté de l'autre ne te touche plus. Ou elle te touche trop. Tu l'amènes jusqu'avec toi à la maison, puis là, tu fais juste penser à ça, tu
es-tu capable de t'en sortir quand tu t'en vas dans des endroits où tu ramènes ça?
Bien, moi, comme j'ai un petit peu d'expérience, comme je dis, j'ai 58 ans, fait que là, j'ai un peu de pratique, là. Et puis, quand je vois, là, tout d'un coup, que je suis... Moi, je vais aller plutôt dans le... Je vais devenir plus froid. Tu sais, à un moment donné, ça va comme peut-être moins me toucher. J'en vois tellement... Puis, moi, je travaille à Charles Bruno avec les petits-enfants qui ont le cancer. Alors, tu sais, chaque chambre, c'est un drame. Alors, puis tout d'un coup, quand je vois que je suis un peu moins touchée, moi, je vais prendre une pause. Je vais arrêter de clowner, comme on dit, pendant une semaine, 2 semaines, un trimestre peut-être. Je vais vaquer à mes autres occupations. Ça, je l'ai fait déjà, là. Ça fait 13 ans maintenant que je fais ce métier-là. Mais ça m'est arrivé 3 fois, là, de prendre des pauses parce que je me disais, je ne serais plus aidante. Et surtout, quand on travaille en clown, il faut être dans la légèreté, dans l'ouverture. Alors, si je perds ça, je perds mes ailes de clown. Alors, ça, il y a une chose. C'est d'abord de reconnaître tout d'un coup qu'on est fatigué. Puis deuxièmement, je pense qu'il faut être bien entouré. Moi, j'ai un conjoint qui souffre de l'air en dessous de mes ailes. Alors, c'est quelqu'un on est très différents. Il y a une sensibilité à lui, mais je l'appelle mon rock. Alors, je pense qu'il faut être bien entouré. Reconnaître les signes, être bien entouré et être bon envers soi.
Finalement, un monde, en quelques secondes, un monde plus compatissant, plus empathique et plus sensible pour toi, ça ressemble à quoi? Ça nous apporterait quoi dans ce nouveau monde?
Hey, ça bouleverserait les affaires. Imagine-toi! Je ris parce que c'est toute une question.
Qu'est-ce que tu penses que serait le plus grand apport, la plus grande différence?
Je pense qu'on serait tous plus en santé, physiquement et émotionnellement. Je pense qu'on deviendrait des êtres beaucoup plus en santé.
Merci, Michèle Serrois. Merci infiniment.
Une fois de plus, père, je me confie à vous. Comment réagir quand j'aperçois mes frères se comporter comme des fous? Devrais-je me taire, laisser les choses se faire? Mais j'en ai plus qu'assez, assez de voir s'engloter toutes ces mères. Les années passent, les tragédies, elles ne s'effacent pas. La haine est de nos jours plus forte que la loi. Les faibles subissent, les forces s'enrichissent, les valeurs morales disparaissent. La race humaine, j'avoue, s'éloigne des bonnes pistes. J'ai cru apercevoir 5 heures, plutôt 6 jeunes. Abattre 7 heures pour quelques dollars, on tourne la page, qui donc entend? Pleurer cette petite sur sa fierté bafouée. Depuis que d'elle ils ont abusé, le système les entraîne, et ce jusqu'à ce qu'ils comprennent que ce pourquoi ils luttent n'en vaut pas la peine. Est-ce l'argent qui fera d'eux des hommes? Donnez-moi la force de comprendre, car ces visions m'assomment.
Nowadays you know it's all about the money. People trip and they start to act funny.
Le royaume des rêves, la réalité t'assiège. Assis sur un siège, engouffré dans les transports en commun. Comme chaque matin, pour gagner ton pain, tu connais le refrain. C'est toujours la même chose, ça devient vraiment morose. Comment mettre un terme à tout cela, ou du moins une pause? Dans les journaux, les emplois font de plus en plus défaut. Un faux ou un tox, à toi d'en juger sur ces mots.
Dis-moi,
travailleras-tu, travaillera-t-elle? Autant de questions qui nous interpellent, mais il prévaut d'y prêter l'oreille à l'écoute d'une jeunesse visitée par le stress qui lance un SOS d'âme en détresse. La bouteille à la mer est jetée, le message est lancé. Matelot dans la vie active, il te faudra naviguer afin que tes rêves deviennent une réalité tangible. Car sur cette île, rien n'est impossible.
Nowadays you know it's all about the money. People drip and they start to act funny.
Dis-moi la force de comprendre, car ces visions m'assomment.
Nowadays you know it's all about the money.
Pourquoi les différents basés sur la couleur perdurent? Prière après prière, mes espérances se heurtent à ce mur. La peur de l'autre est bien souvent fatale, à un point tel que l'homme devient un animal. Ces cris résonnent dans ma tête pour toutes les fois où par des actes déplacés certains firent naître les préjugés. Comment peut-on demander le respect si de l'étiquette violence nul ne se défait?
Face à la réalité de tous les jours à laquelle on est confronté, nez à nez, œil pour œil, dent pour dent. Le malheur des uns fait le bonheur de certains, mais pour d'autres, l'avenir reste incertain. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, j'en ai vu de haut. Tomber vraiment très bas pour ne pas rester en bas, à toi de faire ton choix. Car à chaque jour, à chacun son combat.
Nowadays you know it's all about the money. People trip and they start to act funny. Oh, this madness goes on and on and on. Nowadays you know it's all about the money. People trip and they start to act funny. Oh, this madness goes on and on and on. Nowadays you know it's all about the money. People trip and they start to act funny.
Avoir de la compassion, c'est merveilleux. En fait, chaque expérience de notre vie nous amène ou vise, en fait, à augmenter notre conscience et notre compassion. Chaque chose que vous rencontrez dans votre vie, un événement, un individu, une expérience, ça vise à augmenter votre conscience de tout ce qui est et à augmenter votre compassion envers ce qui est. Avoir la capacité de se mettre à la place de l'autre, de le comprendre, ça nous mène à juger moins, à aider plus. Mais la compassion, ce n'est pas l'aide en soi nécessairement. Ça ne suffit pas d'avoir de la compassion pour changer le monde. La compassion, en combinaison avec la dévotion, ça amène le réel changement. Mais il faut commencer à quelque part quand même. Avant de changer les choses, de vouloir ou de pouvoir les changer réellement, c'est important de comprendre ce qui les aide vraiment dans l'attitude empathique, la compassion envers autrui. Et comme on a vu qu'il y avait des limites saines à respecter, on peut voir aussi qu'est-ce qui peut nous aider à respecter ces limites saines-là. Se rappeler les limites de l'empathie, c'est se rappeler que la sympathie n'est pas de l'empathie. De vivre les choses à la place de l'autre, d'être dans sa situation plutôt que l'accompagner dans sa situation, ça, c'est plus de l'empathie. Quand on coule avec l'autre, on ne peut pas aider. Et oui, il y a l'analogie du masque d'avion et Michel Sirois, notre invité, nous en a glissé un mot tout à l'heure et c'est effectivement quelque chose d'extrêmement important. Quand je faisais ma formation en relation d'aide, d'ailleurs, c'est une analogie qui nous a été enseignée et qui revenait souvent ici. Ça peut aider quelqu'un qui est à l'écoute présentement et qui peut réussir à comprendre où ça s'arrête, cette limite saine-là. Bien, ça sera déjà ça. En avion, on a ce fameux... masque à oxygène qui tombe en situation de détresse. Et on a toujours cette espèce de mise en situation au début du vol. Pour ceux qui n'ont jamais pris l'avion, là, on nous indique qu'est-ce qui va se passer dans le cas où on en a besoin. Il y a deux masques à oxygène qui tombent du plafond. Et là, on s'imagine dans le cas où on a un enfant, qu'est-ce qui doit être fait? Et la plupart du temps, hein, les empathiques vont se dire ben, « on va sauver l'enfant avant », mais c'est absolument un fait qu'on doive mettre notre masque à nous-mêmes avant celui de l'enfant. Parce que si vous n'êtes plus là, quand cet enfant-là va sortir sain et sauf d'un possible accident d'avion, disons-le comme ça, là, est-ce qu'il est plus avancé? Il faut pouvoir se sauver soi-même pour apporter assistance aux autres. Donc, mettre le masque à soi-même, toujours en premier. Et j'envoie la réflexion suivante. Quand vous vous mettez à la place de l'autre, quand vous êtes rendu à la place de l'autre, vérifiez si vous n'êtes pas en train de revivre vous-même quelque chose qui ressemble de près, mais aussi de loin, ou de manière assez évidente ou pas du tout, à quelque chose que vous avez vous-même déjà vécu. Pour sortir de la sympathie, il faut pouvoir sortir de la situation qu'on a peut-être déjà vécue soi-même, de se mettre une distance, c'est commencer à regarder ce qui est... touché à l'intérieur de nous. Donc moi, je vous invite à l'utiliser, cette sympathie-là, si vous la dépassez, et à l'utiliser pour vous aussi. Il y a toujours moyen d'utiliser les choses à bon escient, et ça peut en être une façon de le faire. Mettre ses limites. On a souvent l'impression qu'être empathique, compatissant, aimant, ça veut dire de ne pas avoir de limites. De ne pas avoir de limites dans ce qu'on accepte comme comportement des autres, les paroles, dans la générosité qu'on doit démontrer pour être une bonne personne. Parce que je pense que je vous ai déjà parlé de notre obsession d'être une bonne personne, vous saurez me le dire. Je pense que je l'ai mentionné assez souvent. Mais au contraire, mettre ses limites, ça nous permet d'être plus compatissant, plus empathique, plus aimant, parce que ça évite d'avoir du ressentiment. Quand on ne respecte pas ses limites, on accumule de la colère, du ressentiment, et paradoxalement et ironiquement, ça nous rend moins compatissants et clairement moins sensibles à l'autre du point de vue qu'on n'a plus d'énergie, qu'on a moins à offrir et qu'on peut définitivement en vouloir consciemment ou non à l'autre. Donc, comment on peut être complètement avec l'autre et être dans la compassion complète quand on a en nous un manque de respect de nos limites et toutes les émotions négatives qui viennent avec et que nécessairement l'autre personne va ressentir, même si ce n'est plus de sa faute rendu là. C'est à nous de les mettre, ces limites-là. Donc, si savoir mettre ses limites, c'est à la base de la compassion, savoir dire non, ça ne serait pas une mauvaise idée. À force de tolérer quelqu'un d'inadéquat, on l'empêche d'évoluer et on lui nuit. Savoir mettre ses limites, ça commence par savoir c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos limites. Et si vous avez de la difficulté avec vos limites, le premier pas à faire, c'est de bien les définir et de travailler sur elles directement. Puis des fois, dans le feu de l'action, quand on est très empathique, très au service des autres, on est souvent, malheureusement, très peu à l'écoute de soi-même. Donc, voyez, dans les situations passées, les situations où vous avez maintenant du recul, où est-ce que vos limites ont été dépassées? Comment vous vous sentiez? Quelles ont été les conséquences? Qu'est-ce que vous accepteriez pas aujourd'hui avec l'apprentissage des expériences? Faites un point à ce niveau-là et essayez de l'appliquer quotidiennement. Et pour ceux qui essaient de fonctionner avec une hypersensibilité, je l'ai nommé pour moi, c'est le plus beau cadeau du monde. Accepter qu'on soit sensible, la voir comme un cadeau, c'est le premier pas vers une sensibilité qui est saine. Se voir aller. Moi, personnellement, choisir que mon hypersensibilité a plus de positif que de négatif, ça m'amène à ne pas vouloir nécessairement la gérer ou la diminuer ou l'éliminer. Et sincèrement, là, je vous encourage à faire la même chose et surtout à ne pas penser que vous devez vous protéger. Parce que si vous pensez que vous devez vous protéger, vu que vous avez une trop grande sensibilité, vous pensez nécessairement qu'il y a des choses, qu'il y a des gens dangereux, et dans un monde de vibrations où tout est attraction, hein, vous comprenez vite que vous devenez un bon match à tout ce qui pourrait faire en sorte que vous voudriez vous protéger. Ouvrez-vous, assumez que vous ressentez tout, parce que oui, vous allez ressentir le stress et la colère, mais vous allez ressentir aussi beaucoup plus de joie. Vous voyez également toute la beauté du monde à un niveau intensifié. Et comme dans chaque chose, il y a ben, une balance et il y a des pôles, et puis ben, ça vient avec. Choisissez de voir aussi le beau à travers cette hypersensibilité-là. Moi, pour moi, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Appliquez la compassion à soi-même aussi, que ce soit d'en mettre ses limites, d'en accepter notre hypersensibilité. La compassion qu'on applique pour les autres, la sensibilité qu'on porte aux autres, il faut savoir l'appliquer à soi-même aussi. S'écouter, se respecter, se comprendre, s'accueillir avec bienveillance, avec non-jugement, c'est à la base de tout. On veut un meilleur monde, mais on s'oublie là-dedans. Commencez donc par l'appliquer à vous-même à la base. Et je reviens à l'idée du masque d'oxygène. Mettez donc votre masque de compassion à vous-même avant de le mettre à quelqu'un d'autre. Ça va aider énormément à être encore plus compatissant, au contraire de ce qu'on pourrait penser. C'est pas vrai qu'en vous oubliant, vous améliorez la compassion dans la vie. C'est spécial, hein? Mais pensez-y sincèrement. C'est pas bête. Faire des exercices de compassion aussi pour tout ce que j'ai nommé, hein, j'avais dit que c'était facile d'avoir de la compassion pour un enfant, un chien vulnérable, mais pour ceux qu'on cautionne moins, c'est un peu plus difficile. Commencez à faire des exercices de compassion parce que j'ai déjà dit dans l'émission sur la souffrance, ceux qui l'ont pas écouté, vous pouvez toujours aller l'écouter sur le site internet du canal m.visezvoix.com. Quand on diminue la souffrance des autres, on diminue la nôtre aussi. Donc, en les comprenant, on va améliorer le monde parce qu'ils vont moins nous faire souffrir et on va se guérir nous-mêmes. Et on va arrêter d'attendre qu'eux le fassent à notre place. Faites des exercices de compassion. Mettez-vous à la place des autres. Essayez de trouver ce qui peut expliquer ce que vous voyez. Essayez-le au moins.
Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, hide it now. Happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like mad. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promise myself I'd get by. Said I'm gonna try it with them too.
C'est presque tout pour l'émission cette semaine. Je veux remercier Anne-Laure Janson à la recherche, Jean-Sébastien La Liberté à la régie et Michel Sirois d'avoir accepté notre invitation et d'être venu parler de compassion et d'empathie, de sensibilité avec nous. De très généreux à part.
tu sais, vivre avec empathie, avec compassion, sensibilité à tout ce qui nous entoure, c'est la seule façon de vivre en harmonie, d'amener la paix, d'arrêter les guerres de pouvoir, de position, de savoir. La compassion, aimer l'autre, le comprendre, c'est tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre dans le monde qu'on se souhaite tous, un monde qui est uni, harmonieux et sain. En fait, vivre dans la compassion, dans l'empathie et avec sensibilité, c'est la voie vers un monde meilleur, littéralement, parce que la sensibilité et la compassion, pour tout ce qui est autre que nous, c'est intimement relié à une conscience plus grande. Mais rappelez-vous que vous faites partie de ce monde-là, que vous le méritez vous aussi. Commencez par vous. Vous êtes quelqu'un. Bonne semaine.